Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Rebonjour à ceux qui sont déjà avec nous depuis 7 heures. Alors, pour le premier cas de figure, pas de problème. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la première heure, toutes les interviews, les chroniques, les reportages en podcast. Vous pourrez également retrouver notre interview exclusive de Jean-Marc Torollion, le président de l'AFNAIM, qui était avec nous à 7h30 pour évoquer la fermeture des agences immobilières dans les départements qui seront confinés à partir de cette nuit. Pour tous, on est en tout cas ravis de vous accueillir pour cette deuxième partie du MAC de l'IMO consacrée, vous le savez, à notre traditionnel grand témoin. Je suis toujours en compagnie de Fabrice Coustet. Et avec Fabrice, on a pris un petit cours de hongrois pendant les infos.
Et oui, on peut ainsi maintenant vous dire bonjour en hongrois.
Je vous laisse faire, du coup.
Sia Chongor, c'est bien ça, Sia, oui, ça veut dire salut. Il y a une version plus polie, mais c'est plus long. Oui. Donc on a séché un petit peu. Comment on dit bonjour, comment ça va?
Jónapot kívánok, hogy vagy?
Eh bien, ça va très bien, nous aussi, et on est ravis de vous accueillir. Tchoukas, donc le CS en hongrois, ça se dit tch. Voilà pour ce petit cours. Notre invité qui est avec nous durant une petite heure, vous allez l'écouter, une playlist rock. Mais tout d'abord, un petit mot sur votre parcours, hein, puisque c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des gens qui viennent de France, surtout pour des postes comme ça aussi importants au cœur de la propre management chez BNP Paribas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours?
Oui, ça a commencé avec ma mère. Quand j'ai dû choisir quelle langue à apprendre après l'anglais en tant que deuxième langue, c'était, je pense, à l'âge de 12 ans, elle m'a dit, parce que j'aurais pu choisir entre l'allemand et le français, et elle m'a dit, les Allemands vont, de toute façon, tu seras capable de leur parler en anglais. Les Français, ils n'apprennent pas l'anglais. Donc, vas-y, si tu veux être européenne, apprends le français.
Bon, tout vient de notre piètre...
Les idées reçues, c'est incroyable.
Notre piètre culture en langues étrangères.
Mais
d'accord.
Vous savez ce qui s'est passé, qu'en fait, je l'ai appris, j'ai eu un prof passionné par le français. Donc, il nous a donné deux fois de plus de cours, des classes. J'ai commencé à 7 heures le matin, avant que l'école commence, donc j'ai adoré, je suis tombé amoureux de la France, mais ce qui était plus que ça, c'était attendez, je viens d'oublier ce que j'ai voulu dire, ah oui, que quand je suis venu en France pour la première fois, et j'ai essayé de pratiquer toutes mes connaissances, tout le monde a immédiatement changé un switché pour l'anglais. Et c'était un peu embarrassant pour moi, alors que moi, j'ai fait beaucoup d'efforts de parler en français, alors qu'ils ont détecté que j'ai un accent quand même assez fort, et ils ont essayé de parler en anglais.
Bon, ben voilà.
On n'a rien remarqué.
Du coup, on parle quand même un petit peu anglais, ça fait plaisir. Donc, c'est quoi, l'adolescence, vous commencez à apprendre le français, c'est ça?
Oui, tout à fait, environ à l'âge de 13-14 ans. Ouais.
D'accord. Et la première fois que vous venez en France, c'est quelle région, c'est quelle ville?
En fait, c'était parce que à l'université, il y avait une bourse Erasmus presque, et ils ont cherché quelqu'un qui parlait français. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'en Hongrie, les gens n'aiment pas trop parler en français. Et donc, j'ai pu faire un stage à Montpellier, à Strasbourg, à l'université Louis Pasteur, en tant qu'un stage pour un mois d'été.
D'accord.
On va reparler évidemment de tout ça, de votre parcours, de ce qui vous a amené ici dans l'immobilier. Avant, je voudrais quand même rappeler que vous êtes le président de BNP Paribas Real Estate Property Management pour la France. Vous êtes également aide de l'International Property Management, toujours pour BNP Paribas Real Estate. On devine aisément ce qu'on y fait. En tout cas, c'est un rapport avec l'immobilier tertiaire. Est-ce que vous pouvez quand même nous le rappeler en quelques mots, l'émission de BNP Paribas Real Estate Property Management?
Bien entendu. Donc, BNP Paribas Real Estate est un acteur de l'immobilier avec 6 lignes de métier. Il y a la promotion immobilière en tant que tertiaire et résidentiel, bien entendu. Il y a l'investment management, il y a la transaction, il y a la conseil, l'expertise et finalement, mais pas en dernière ligne, le property management. Et le property management est présent en 13 pays en Europe. Et en France, on a une activité qui correspond à 40% de la ligne de métier. Le patron de la ligne de métier s'appelle Loric Leclerc, qui est membre du board, et moi, je suis son adjoint, disons, qui est le président pour l'activité France, et aussi, je coordonne l'international.
Ça concerne uniquement le bureau ou tout le tertiaire, c'est-à-dire le logistique
Ça concerne toutes les classes d'actifs. On gère environ 45 millions, même plus, de mètres carrés à travers l'Europe, en 13 pays.
Quelle différence, du coup, avec l'autre casquette que vous avez pour le côté plus international ?
Oui, donc, en fait, en France, on gère environ 17 millions de mètres carrés et la reste à l'international. Moi, je viens de l'international. En 2014, j'ai joint BNP Paribas Real Estate Property Management à Paris pour construire justement cette cellule internationale et avec Loric Leclerc. Et j'étais plus en rôle de coordination. Mais avant, j'étais en manager direct. La différence entre les deux, c'est quand nous sommes manager direct, on a des objectifs fixés par le directoire ou par des autres. Et on doit les exécuter, on doit faire les tâches et on doit être capable de faire à la place de nos équipes. Quand nous sommes en management indirect, ça veut dire quand on donne un international et plusieurs pays où il y a des patrons très seniors, on ne peut pas faire à leur place. On doit les responsabiliser, on doit les mener par des objectifs. Donc j'ai deux casquettes. J'ai la casquette indirecte qui est très inspirante parce que je travaille avec des gens très senior, très compétent, et j'ai bien entendu la casquette directe où c'est moi-même qui je dois délivrer les chiffres.
Au niveau temps, c'est quoi ? C'est du 50-50 ?
Non, c'est plutôt, j'essaye de me concentrer 80% sur la France et 20% sur l'international.
Et en plus de tout ça, je ne sais pas, peut-être que vous êtes hyperactif, vous nous le direz.
Ah oui.
Vous êtes président de l'APROMA. L'APROMA, c'est l'association des property managers.
Tout à fait. En fait, il faut savoir que le property management en soi-même, avec une petite crise avant la crise Covid, on a dû se mettre en question concernant notre valeur ajoutée dans la chaîne immobilière à cause de l'évolution de la technologie, l'apparence des acteurs des coworking, les usages, etc. etc. Et en fait, dans cet questionnement, moi, j'ai essayé de comprendre comment on peut prendre notre place et comment on peut exploiter le potentiel de ce métier. Et donc, dans cet questionnement, et en tant que membre d'APROMA, on a travaillé ensemble sur plusieurs chantiers et j'étais, comme toujours, assez active. Et donc, finalement, comme il y a un rôle assez important maintenant de transformation dans ce métier, avec l'APROMA, je mène, avec les membres qui sont très déterminés et dévoués, on fait ce chantier.
Et vous en êtes où, justement, de vos réflexions un an après le début de la crise sanitaire en France ? Alors, tout le monde s'est mis à hurler que le bureau était mort. Visiblement, ce n'est pas le cas. Je pense que ça ne sera de toute façon pas le cas. Vous nous... quel regard, quelle analyse vous avez de ça ?
En fait, je fais un parallèle avec le e-commerce. Le e-commerce, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a eu impact sur deux classes d'actifs, sur le retail, sur le commerce, et sur le logistique. Le retail, parce qu'on a questionné pourquoi on va dans une boutique si on peut acheter de la maison. Et deux, si j'achète de la maison, il faut le livrer. Donc la logistique, il faut des dépôts. Donc il a mis en question comme destination le retail, les commerces, et il a renforcé, il a boosté le logistique. Le télétravail et le e-office, comme je l'appelle, a les mêmes les effets sur le office et le résidentiel. Il met en question le bureau. Pourquoi aller dans un bureau si je peux travailler de la maison ? Donc il faut qu'on fasse une place de destination. Et deuxième, il renforce le résidentiel parce qu'on passe plus de temps au résidentiel. Donc il faut comprendre ces tendances. Et en tant que gestionnaire de toutes les classes d'actifs, on doit intégrer dans notre activité autant la partie traditionnelle qui s'est important, ce sont les fondamentaux gestion technique des charges et des baux, qui peut être la partie un peu ennuyeuse, mais c'est indispensable. Et sans ça, on ne peut rien faire d'autre parce que ça représente les bases. Mais après, il y a tout l'aspect humain, serviciel, communication, relationnel, qui on a, je pense, un peu oublié dernièrement. Et c'est exactement ça qui représente la valeur et qui va faire la transformation de notre métier.
Fabrice, ça vous fait réagir tout ça ?
Mais oui, bien sûr, j'ai pas mal de questions. Effectivement, on a l'impression d'une transformation. En tout cas, certains sont en train de réfléchir à peut-être avoir des baux plus flexibles, plus souples. Ici, on est dans un site de coworking, hein, les bureaux justement, ou le studio de Radio Imo. Du coup, on connaît ce phénomène. Est-ce que justement, vous craignez ou vous voyez ces transformations comme des opportunités?
Clairement, c'est une opportunité. Après, toutes les opportunités se présentent pour ceux qui sont actifs. Les changements pour ceux qui sont passifs, c'est une menace. Les changements pour les actifs, c'est une opportunité. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est plutôt, je le vis comme une opportunité. Et surtout pour un métier comme le property management, qui a eu un peu de difficulté de faire valoriser ses efforts. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au property management, et ce sont des gens très modestes, des bosseurs, qui n'ont pas des show-off, donc comment ils s'appellent, ils sont respectueux. Malgré toutes leurs qualités humaines, nous n'étions pas capables de vraiment les valoriser, parce qu'on était dans une logique d'industrialisation et justement d'enlever la côté humaine qui peut représenter la valeur. Avec le Covid, d'ailleurs, il y avait c'est pas des nouvelles tendances, ce sont un accélérateur et des tendances qui ont commencé à cause des questionnements sur les usages et l'évolution de technologique. Et en fait, c'est une opportunité pour la ligne de métier, en fait, de démontrer qu'est-ce qu'on peut faire. Nous avons un rôle principal quand on gère la crise, qu'on peut aider, qu'on peut accompagner, et pas seulement sur les basiques, sur les fondamentaux, mais aussi comment, par exemple, sur les usages flexibles, quels sont les services, à quelle proportion de mettre en place dans les immeubles.
Très bien. Ouais, on retrouve finalement la valeur humaine et la valeur de chacun des agents de vos équipes, finalement.
Exactement.
C'est finalement le plus dur dans votre métier aujourd'hui, c'est d'arriver à partager ces nouveaux usages, les nouvelles technologies aussi. On sait que le digital fait une entrée en force dans le bureau.
Oui, tout à fait. On digitalise énormément. Il y a plusieurs choses, la digitalisation et la technologie en globalité, qu'on peut automatiser des tâches. Mais de nouveau, il ne faut pas enlever l'aspect humain. Et il y a aussi on a les connaissances de terrain. Et si on n'arrive pas à le transformer en conseil ou en accompagnement, dans ce cas-là, pourquoi on cumule ces connaissances de terrain? C'est une gâchis, c'est une perte d'opportunité. Donc, toutes les connaissances que les gestionnaires techniques, les gestionnaires peuvent avoir, avec le data, on peut le upgrader, si vous voulez, pour justement mieux conseiller, accompagner nos clients dans leurs décisions des travaux, dans leurs décisions de négociation avec les locataires qui se posent plein de questions, combien d'espace ils ont besoin, comment contractualiser, est-ce qu'il y a un fixe, une partie flex, est-ce que c'est assuré par des coworkers ou par des prestataires au compte de propriétaires, parce que de plus en plus, il y a des acteurs qui viennent pas à leur propre compte d'exploiter des espaces flexibles, mais au compte de propriétaires, etc., etc.
Le bail classique de bureau est terminé, vous pensez?
Non, c'est pas terminé, mais ça a mis en question énormément. Et ça aurait dû être déjà mis en question. Je ne sais pas si c'est dommage ou c'est bien que c'est à cause de cette crise que maintenant on se rend compte à quel point c'est devenu obsolète. Mais pourquoi c'est pas totalement mort? Parce que, en fait, si on flexibilise tout, ça devient la flexibilisation quand même, ça coûte plus cher. Donc, en fait, il faut trouver...
Ça coûte plus cher à l'utilisateur ou ça coûte plus cher au gestionnaire?
C'est pas le gestionnaire, c'est plutôt le propriétaire. Le gestionnaire, s'il le fait au compte du propriétaire, en fait, les gains, les bénéfices et les pertes vont de toute façon impacter le résultat de propriétaire. Le gestionnaire, normalement, devrait gagner sa vie s'il est bien rémunéré. Mais le propriétaire, ça peut coûter cher parce qu'en fait, il a trop d'incertitudes. Et en fait, dans la finance, on sait qu'il y a les bénéfices et le risque et le bénéfice qui doivent être rémunérés. Sur la bourse, on sait très bien. Donc, pour eux, ce n'est pas bien de prendre trop de risques de flexibilité. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas s'il sera vraiment loué ou pas, donc s'il y aura des revenus locatifs ou pas. Mais pour le locataire aussi, pour payer pour la possibilité de quitter les lieux à n'importe quel moment, ça coûte plus cher. Ça ne veut pas dire que il n'a pas besoin de flexibilité. Mais bien sûr, la question, c'est en quelle proportion? Parce que si de toute façon, il occupe 40% de son espace, bah, c'est mieux de le fixer à 3, 6, 9 ans. Et dans ce cas-là, payer moins cher et juste payer en flexibilité, c'est la partie flexible.
Mmh. On voit que de grands défis vous attendent. Pourtant, à vous écouter aussi, on a l'impression que vous avez plutôt bien traversé cette crise. Il n'y a pas eu d'accident, finalement.
Oui, oui, oui. Et en fait, c'est bien de voir qu'on peut compter sur les property managers. Et en général, bien entendu, on met en avant les property managers, mais c'est vrai aussi pour les facility managers qui sont sur site et tous les prestataires. Ils étaient capables quand même de bien réagir, d'assurer deux choses, la sécurité dans les immeubles et la continuité des activités dans les immeubles. Mmh. Et c'est deux choses qui ont permis quand même de ne pas avoir des gros accidents. Et l'autre chose que j'ai entendu que on a beaucoup de propagation de virus dans les bureaux. En fait, c'est plutôt parce que on doit aller au bureau qu'on peut se contaminer. Mais une fois que nous sommes au bureau, surtout avec tout ce qu'on a mis en place, c'est assez safe, je dirais.
On poursuit ce Mac de Limo avec, si vous le voulez bien, Tchungor, un premier témoignage. On va rester dans la sphère professionnelle pour l'instant avec celui d'Isabelle Claire. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots?
Bien entendu. En fait, j'ai commencé ma carrière à une filiale de AEW Europe en 50% et ICAD en l'autre 50%. Et c'était Isabelle, une de mes premières patronnes, qui en fait m'a conseillé, m'a orienté, m'a donné des bonnes orientations. Et ce qui m'a impressionné, c'était son énergie. Toujours, il était à n'importe quelle heure de la journée, même la nuit, elle était prête à réagir, à avoir une idée un peu étonnante, mais qui était toujours dans l'intérêt de l'entreprise et pour faire avancer les choses. Il a aidé beaucoup ses équipes. Et donc, en tant que première patronne, qui finalement m'a laissé partir d'AEW Europe, bizarrement, parce que c'était avec elle qu'on a vendu en Europe centrale l'activité de property management d'AEW Europe et que BNP Paribas Real Estate l'a acheté. Et c'est comme ça que finalement je suis atterri chez BNP. Donc, c'était elle qui finalement m'a dit: Tchungor, c'est pas si mal BNP, peut-être que tu devrais considérer. Et finalement, je suis resté chez BNP.
Eh bien, écoute, on écoute Isabelle Claire, votre première patronne, et elle a été interrogée par Pierre-Yves Falson.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Pierre-Yves.
Vous êtes l'ancienne patronne de Tchungor Tchoukash. On a envie de savoir comment il est au travail.
Alors Tchungor, je le décrirais comme quelqu'un qui est engagé, convivial, fiable, travailleur, à la fois un hyper technicien et un hyper financier, quelqu'un d'extrêmement complet. C'est également quelqu'un qui fait preuve d'une très grande gentillesse et qui a eu un coup de cœur pour la France de très longue date et du coup qui s'est créé ce lien particulier, même si on le rencontre dans une ville étrangère, à Budapest en Hongrie.
C'est un grand amoureux de la France. J'ai cru comprendre que vous aviez une petite anecdote à nous raconter par rapport à ça. Quand il est arrivé en France?
Oui, alors Tchungor m'a demandé d'aller dans un restaurant typique et de parcourir la carte du menu. Et parmi la carte du menu, il s'est interrogé sur ce que c'était qu'une andouillette. Alors je ne savais pas dire andouillette en anglais et donc je n'ai pas réussi, j'ai essayé de me faire comprendre. Tchungor étant curieux de nature et aimant la France, donc a commandé ce plat et avec les meilleurs efforts du monde dont il est capable, en fait, il a dû abandonner quelques
bouchées. Ça l'a surpris. Quand on n'est pas au courant, c'est surprenant une andouillette. Oui. Isabelle, la parole est à vous. Tchungor est là, il vous a choisi. C'est le moment pour vous de dire ce que finalement vous avez jamais osé lui dire.
Eh bien, Tchungor a été un élément extraordinaire sur la feuille de route que l'on m'avait confiée, consistant à restructurer toute une équipe en Europe centrale, dans des pays que je ne connaissais pas, avec des langues que je ne connaissais pas, sur des métiers que je ne connaissais pas aussi bien que toi. Tu as été un élément décisif dans la réussite de cette mission. Et je suis extrêmement fière et honorée que tu m'aies choisie aujourd'hui pour parler de toi. Et je te souhaite tout le succès que tu mérites très largement.
On sent qu'il y a un très joli lien qui s'est créé entre tous les deux et que vous lui avez laissé finalement un très bon souvenir. La collaboration, en tout cas, a l'air de s'être bien faite.
Oui, on a passé pas mal de temps ensemble en Europe centrale pour justement autour des questions que même pour moi, c'était inconnu. Et quand on sent que nous ne sommes pas tout seuls et quand on a quelqu'un qui nous soutient, on s'engage encore plus, on s'investit encore plus. Donc c'était très bien. C'était difficile, mais le plus c'était difficile, le plus la récompense pour avoir réussi, c'est savoureux.
Et vous avez choisi, Tchongor, de nous donner un autre contact dans la sphère professionnelle. Donc on en a profité, on l'a appelé également pour vous découvrir un peu plus, pour découvrir un peu le travailleur, l'homme que vous êtes. On a appelé également Magali Volé. Vous pouvez nous la présenter également rapidement ?
Oui, Magali a travaillé aussi chez AEW Europe. On n'était pas en relation directe tellement. Elle était responsable plutôt pour la partie financement. Mais on a dû quand même, à cause de reporting, échanger régulièrement. Et de nouveau, ce qui m'a impressionné avec Magali, c'était que c'était elle qui a réussi à me répondre le plus vite. Je n'ai même pas envoyé mon mail, j'ai eu la réponse, c'était incroyable. Et c'est déjà okay, c'était agréable de travailler du coup avec elle. Et elle a eu une exigence assez élevée, professionnelle, ce qui m'a aussi un peu inspiré pour justement ne me pas contenter avec le standard, le normal, mais aller plus loin.
Une bonne inspiration, presque un mentor qu'on va écouter tout de suite. Magali Volé avec Pierre-Yves Falson.
Bonjour Magali.
Bonjour Pierre-Yves.
Vous avez travaillé avec Tchongor Tchoukache. Je vais être très direct. Tchongor, il est plus machine à café ou machine de guerre ?
Machine de guerre, sans aucun doute.
Ah, pourquoi ?
Très sympa la machine à café, mais c'est une machine de guerre. C'est quelqu'un de...
Ah, donc c'est quand même un peu des deux.
Quelqu'un de brillant, ouais. Quelqu'un de très agréable et à la fois brillant. Donc, c'est une machine de guerre et un très bon collègue pour la machine à café également.
Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous avez travaillé avec Tchongor ?
À l'époque, Tchongor dirigeait la filiale de Facility Management. Moi, je l'ai rencontré à Budapest il y a presque 16 ans déjà. Et il était vraiment quelqu'un de brillant, d'ouvert, de très sympa, quelqu'un qui avait vraiment envie de faire progresser ses équipes et l'entreprise. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler avec quelqu'un d'aussi ouvert que lui.
C'est un meneur d'hommes ?
Tout à fait. C'est un vrai meneur d'hommes, quelqu'un de très humain et en même temps vraiment un vrai leadership qui m'avait déjà impressionné alors qu'il était encore assez jeune à l'époque, moi aussi d'ailleurs.
Magali, c'est une tradition dans le Mac de Limo. Tchongor vous écoute, c'est le moment pour vous de lui délivrer votre message.
Très bien. Alors Tchongor, je sais que tu m'écoutes donc. Tu es une personne qui allie à la fois... l'intelligence et la simplicité au sens noble du terme. Et je voulais savoir si tu pouvais communiquer ta recette de simplicité à d'autres dirigeants.
La question est posée. Quelle est votre recette ?
En fait, d'avoir le courage de donner plus que de recevoir, de donner sans échange. Et c'est souvent, c'est simple. On ne se pose pas des questions pourquoi on fait les choses. On veut tout simplement donner plus et faire avancer les choses.
C'est ça aussi qui fait un bon manager, puisque Magali disait que vous êtes un très bon meneur d'hommes.
Oui, oui. Donc en fait, moi je distingue la partie management et leadership. Le manager, c'est un cuisinier qui, selon une bonne recette, fait parfaitement le plat, on l'adore. Et le chef, c'est qui, sans les ingrédients, sans connaissant les ingrédients, peut faire, c'est faire un bon plat. Et il faut, quand on est dans un grand groupe, on doit avoir les deux compétences. On doit être capable de suivre mot à mot ce qui est dit par la direction générale ou le groupe. Il n'y a pas question de rajouter des ingrédients qui ne sont pas souhaités. Et parfois, la direction générale juste dit, je ne sais pas comment, tu dois te débrouiller, c'est l'enjeu, fais-le. Et donc, j'essaye de bien... la simplicisme, c'est vraiment aussi de ça m'a beaucoup fait de bien, ce que j'ai entendu de Magali, que j'essaye de faire progresser mes équipes et l'entreprise. C'était aussi toujours sur mon agenda. Et maintenant, avec la Pruma, justement, j'essaie de faire pas seulement mes équipes, l'entreprise, mais aussi la profession.
Vous apportez finalement votre pierre à l'édifice.
J'espère.
On va faire une petite pause musicale maintenant, si vous le voulez bien, avec votre deuxième choix. Alors, on a écouté Metallica tout à l'heure. Maintenant, on va écouter Aerosmith. Ça s'appelle Living on the Edge. Avant qu'on l'écoute, quelques mots sur ce choix. Pourquoi Aerosmith ? Pourquoi ce titre ?
En fait, c'est, il faut toujours tester nos limites et de se contenter de nouveau avec... Le standard, c'est pas mon style. Moi, j'ai toujours essayé de faire plus. Et quand les autres ont freiné dans le virage, moi, j'étais encore en train d'accélérer.
Eh ben, on va accélérer tout de suite avec Aerosmith, Living on the Edge.
There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. The light bulb
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
On est de retour dans le Mac de l'Imo avec notre grand témoin du jour, Tchungor Tchoukas, je vais y arriver. On est ravis de vous avoir. Alors là, on discutait un petit peu pendant la musique, mais on va partager ça avec tous nos auditeurs. On a vu un peu ce que vous faisiez professionnellement au quotidien. On a parlé de BNP Paribas Real Estate Property Management. Maintenant, je voudrais qu'on parle de vous, Tchungor. On l'a dit, vous venez de Hongrie. Vous êtes de Budapest
Non, je suis né en Roumanie. En fait, je suis né dans une famille hongroise, d'origine hongroise. À la maison, on a parlé l'hongrois. Mais il faut savoir qu'en Roumanie, en Transylvanie, la partie Transylvanie, il y a beaucoup de minorités hongroises qui vivent. Et donc, je viens d'une telle famille. En fait,
c'est chez Dracula, ça.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, la Transylvanie, plus au centre de la Transylvanie. Moi, je viens de la périphérie de la Transylvanie, qui est juste à côté de la frontière hongro-roumain. Et donc, c'est à 12 kilomètres. Et même, après la Première Guerre mondiale, le terrain de mon grand-grand-père était divisé en deux. Sauf que la maison est tombée en Roumanie, donc je suis né en Roumanie.
Et vous aviez le jardin en Hongrie
Oui, sauf que tout était déconfisqué. Donc voilà, non, il n'y avait ni maison, ni quoi. C'était rendu après la chute de régime de Ceausescu, un dictateur de la Roumanie. Et c'était rendu, mais on n'a pas voulu récupérer les terrains. On était compensé par des titres, par je sais pas quoi, peu importe.
Voilà. Donc du coup, vous faites vos études en Roumanie, c'est ça?
Oui, les premiers 12 ans, j'ai vécu en Roumanie. Après, il y a un autre détail qui est assez important. Ma famille était très très pauvre, donc on n'a pas pu bien vivre, on était bien endetté, et donc mes parents ont dû choisir quelque chose pour sortir de cette situation, et ils ont accepté d'aller en Libye pendant 4 ans. Donc j'ai vécu avec mes grands-parents parce qu'il y avait en fait les seniors, qui étaient éduqués en Libye. Il y avait un manque. Et ils ont cherché, et donc de la Roumanie. Mes parents sont allés là-bas. Moi, je l'ai vu une fois pendant ces 4 ans. Mais quand ils sont revenus, un an après, on a décidé ensemble, la famille, de déménager en Hongrie parce que nous étions hongrois. Et comme Ceausescu n'était plus en place, donc on a pu voyager parce qu'auparavant, ce n'était pas possible.
Donc, vous avez vécu quand même la chape de plomb, hein, le rideau de fer, enfin, qui s'est bien sûr effiloché au fil du temps, surtout dans le milieu des années 80. Mais ça explique aussi, Tchungor Tchoukas, peut-être votre souhait, votre volonté quasi infinie comme ça d'apprendre et de se dire, on n'a pas pu faire peut-être beaucoup de choses et ça devait être assez pesant au niveau de votre enfance, en plus séparé de ses parents. Après, du coup, tout est possible.
Tout est possible, exactement. Donc c'était un peu une envie énorme pour apprendre. Donc j'ai essayé d'apprendre tous. Qui était possible d'apprendre.
Du coup, vous avez combien de diplômes? Vous êtes quoi? Vous êtes ingénieur? Vous êtes économiste?
J'ai 4 diplômes. J'ai un polytechnique, j'ai finance, j'ai étudié la bourse, etc. Donc, j'ai fait un master aussi en France, à ENSAM, Paris-Tech, à Cluny d'ailleurs. Je ne suis pas Gazarm parce que c'était le bac plus 6. J'ai un PhD, pas un PhD, mais un absolutorium. Donc, j'étais vraiment intéressé pour absorber autant de connaissances du monde que possible. Il y a un autre passion, c'est le voyage. Je me suis dit, j'étais enfermé dans un pays sans pouvoir voyager, donc j'ai voulu voyager. Et c'était très jeune, avec mon meilleur ami, quand on a regardé des brochures de Tui de plusieurs centaines de pages, et je me suis dit, même si je voyage 2 fois par an, qui est déjà pas mal, je ne serais pas capable de finir la brochure. Donc je me suis dit, je suis en retard, je dois voyager à tout prix parce que je veux découvrir le monde, et le monde autant la Terre que l'espace. J'ai une passion aussi pour un jour aller dans l'espace.
Ouais, vous avez pris votre réservation pour l'aller simple sur Mars?
Non, je ne veux pas parce que j'adore ma famille et peut-être qu'on va en parler. Vous avez peut-être vu le film Interstellar. C'est un film qui est pour moi très touchant parce qu'il y a deux choses dedans. C'est la relation papa et fille. Et deuxième, l'amour vers l'espace. Et ces deux choses-là sont contradictoires souvent. Et je ne suis pas sûr que je pourrais faire ce que l'acteur principal a fait dans le film, de quitter la Terre et laisser derrière sa fille. Donc c'est pourquoi je n'irai jamais sur Mars et laisser derrière ma famille. Mais de passer une nuit, c'est bizarre de dire dans l'espace parce qu'il n'y a pas de nuit et jour, mais de voir la levée de Terre, ça serait juste immense. C'est un rêve.
Oui, comme notre champion national, Thomas Pesquet, qui repart hein, sur l'ISS et il sera même chef de mission pendant quelques mois. Ça, c'est un rêve et ça fait rêver effectivement beaucoup, beaucoup de gens.
C'est assez classe, effectivement. Qu'est-ce qui vous a amené en France? Comment vous êtes retrouvé en France? Alors, on a vu qu'il y avait ce rachat, c'est AAEW, c'est ça?
Oui.
Qui a été racheté par BNP Paribas?
Oui, oui, like, des activités de property management en Europe centrale de AAEW Europe étaient vendues à BNP Paribas Real Estate. BNP Paribas Real Estate n'a pas acheté AEW Europe ses activités de property management en Europe centrale, pour être totalement précis. En fait, c'était fait en 2010, mais c'était bien entendu un étape très important, mais c'était en 2014 que mon patron actuel m'a proposé de venir. Et bien entendu, auparavant, il y avait des autres opportunités d'aller à l'étranger et j'ai toujours discuté avec ma femme et toujours la réponse était non. Donc,
Hongroise, votre épouse ?
Elle est hongroise. Elle est hongroise. Elle est très harmonieuse, elle est très calme, tout ce qu'il me faut pour avoir une vie normale. Et elle est très belle. Même je m'étonne parfois pourquoi elle est avec moi. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle est hongroise. Et elle a toujours vécu en Hongrie. Elle n'a pas bougé comme moi. J'ai fait mes premiers 8 classes en 7 écoles. Donc, moi, j'étais pour survivre, toujours de me tester et de démontrer que je suis capable d'y arriver. Mais pour arriver en France, en fait, déjà pendant la période de Ceausescu, moi, j'ai rêvé parce que j'ai entendu des histoires sur la France. Et je me suis dit, un jour, si je pouvais aller en France et à Paris, d'être là-bas. Aujourd'hui, j'y travaille et avec mes enfants qui sont à l'école française. D'ailleurs, ils parlent mieux le français que moi, au moins sans accent. Ce que je veux dire, que c'est vraiment un rêve réalisé. Mais ça, avec la langue française et avec les possibilités de faire des bourses, avec les études ENSAM, master, et après le master, j'ai vécu un an entre 2000 et 2001 en France, mais j'ai retourné à cause de mon épouse à Budapest. J'ai dit non, c'est la famille, c'est plus important. Mais j'ai réussi en 2014 de la convaincre.
À la convaincre.
Ouais. Exactement, et depuis, nous sommes ici en France.
Ouais. Il fallait là, tout vous ramener en France, visiblement.
Ouais, finalement, exactement.
Moi, j'ai juste une question sur votre parcours. Vous nous avez dit donc beaucoup de diplômes, vous êtes au moins Bac+15, Bac+16, si on fait le cumul. Pourquoi vous commencez en facility management? Vous auriez pu faire beaucoup d'autres choses.
Ah oui, c'est une très bonne question. En fait, c'était pas un choix en soi, c'était parce que le master que j'ai fait en France à l'ENSAM, il a fallu faire un stage de 6 mois et ceux qui ont cherché, moi j'ai cherché un stage, mais ce qui était intéressant, que c'était la filiale de, en fait, ICAD Eurogem à l'époque qui ont cherché un étudiant, étudiant Bac+6 pour faire son stage à Budapest qui parlait le roumain et qui avait au moins 2 diplômes. Finance et technique.
Ah, ça en réduisait fait, quand même le champ des possibles.
Donc, ils m'ont donné le contrat sans interview. Donc, j'ai commencé là. D'accord. Et comme j'ai commencé là et comme j'ai évolué toujours, finalement, je suis là sans vraiment me réfléchir sur ma carrière.
Tout à l'heure, on entendait dans le témoignage d'Isabelle cette histoire assez incroyable de votre premier restaurant en France, de votre première expérience avec l'andouillette. Ça marche toujours pas avec l'andouillette?
Non. Je suis courageux, mais il a des limites.
Comment s'est passée justement votre intégration, si on peut dire, en France, avec nos habitudes, même avec les Français? On n'est pas toujours facile, on est parfois un peu grognon. Vous avez vu une grande différence ou ça s'est fait naturellement?
Non, ça s'est fait naturellement. Moi, je n'ai pas senti des difficultés, vraiment. Vraiment parce qu'il y avait beaucoup de Français que j'ai connus, je connaissais déjà avant que j'arrive en France. Donc, quand je suis arrivé, j'ai eu des gens avec qui parler, avec qui me rencontrer. Même, on était contents de finalement se rencontrer et pouvoir sortir le week-end ensemble, alors que je n'étais plus à Budapest. Donc, l'intégration ne s'est pas faite difficilement. Pour mon épouse, qui ne parlait pas un mot en français, et je suis très fier d'elle parce qu'elle a maintenant, elle se débrouille très bien. Elle est juriste de base, mais bien entendu, c'est la loi, c'est pas la même en France qu'en Hongrie. Pour elle, c'était pas si facile. Mais maintenant, pour les enfants, de toute façon, pour eux, d'être ici ou là, quand il y a la famille, oui, c'est sûr. Ce qui compte.
Bien sûr. Comment elle s'appelle, votre épouse ?
Nora, N-O-R-A.
Eh bien, on la salue, j'espère qu'elle nous écoute. Vous lui avez dit, évidemment, que vous passiez ce matin,
oui,
elle doit nous écouter.
Oui.
Eh bien, on lui dit bonjour, puis on lui dit bravo pour l'apprentissage du français. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque ici, que vous aviez en Hongrie, je ne sais pas, un plat, une habitude, un lieu ?
Pas tellement. D'ailleurs, j'ai reçu déjà cette question, où je me sens à la maison, où est mon foyer ? Et toujours, en fait, quand je réfléchis, c'est pas un lieu précis, c'est pas géographiquement déterminable, c'est plutôt avec qui je suis. Et en fait, quand je suis avec ma famille, je me sens à la maison indépendamment où je me retrouve. Après que je suis en France, en plus, c'est un vrai plus. Mais non, je manquerais. Si je n'avais pas la famille, et c'est pourquoi je ne serais jamais venu en France si la famille n'était pas prête de me suivre.
Et à l'inverse, quelque chose que vous aimez particulièrement, qui soit typiquement français ?
Typiquement français, tout. En fait, déjà, la France en tant que pays, paysage, donc nature, avec sa diversité, et je dirais même les Français, avec tout leur... contradiction, je pense que je les aime bien.
On va écouter, on va poursuivre avec un troisième témoignage, si vous le voulez bien. Cette fois, on vous a demandé de nous donner, de nous balancer un ami, comme on dirait. Et vous nous avez parlé de Fabrice Pommier, que Pierre-Yves Falson a appelé. Avant de l'entendre, pareil, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation rapide ?
Oui, tout à fait. Lui, il était le patron de Cardiff en Hongrie. Cardiff fait partie du groupe BNP Paribas. En fait, c'est là-bas où on s'est rencontrés. Moi, j'étais en charge de real estate. Et c'était d'abord professionnel. Et après, ça a pris plus une tournure amicale. Et donc, on se rencontre les week-ends quand on peut, entre les familles. Voilà, c'est plus maintenant pas côté professionnel parce qu'on ne travaille pas tellement ensemble, mais c'est plutôt personnel.
Allez, on écoute Fabrice Pommier interrogé par Pierre-Yves Falson.
Bonjour Fabrice.
Bonjour Pierre-Yves.
Vous êtes un ami de Tchongor Tchoukash et vous vous êtes rencontré dans le monde du travail et ensuite vous êtes devenu ami. Racontez-nous, comment ça s'est passé ?
On s'est rencontré avec Tchongor il y a environ 10 ans. Moi j'arrivais en Hongrie, dans son pays, dans la belle ville de Budapest. Et Tchongor, on était tous les deux jeunes DG du même groupe chez BNP Paribas. On venait de prendre chacun donc la tête de filiale respective. Et on s'est rencontrés comme ça, dans ce cadre professionnel.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes devenu ami ?
Tchongor est quelqu'un de... Je suis arrivé dans un pays où je ne connaissais personne.
Oui.
Tchongor est quelqu'un de très ouvert. Alors déjà, il est francophone et francophile. Ça aide beaucoup quand on arrive.
En Hongrie, surtout, ça aide. Oui.
Ça aide. C'est mieux que le... Ça a été plus simple que de communiquer en hongrois, oui. Et même en anglais. Voilà. Donc on a bien sympathisé. Très très rapidement, voilà, des atomes crochus, et puis on s'est rencontrés, puis on s'est revus assez souvent dans un cadre plus amical, familial, et jusqu'à ce que la situation s'inverse et que ça soit que moi je rentre en France et que lui vienne en France, voilà.
Vous nous avez dit que c'était quelqu'un d'assez ouvert. Comment justement vous le définiriez en tant qu'homme et en tant qu'ami ?
Oui, c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un de très sympa. Qui est culturellement très malléable en fait. C'est quelqu'un qui vient, qui arrive à s'adapter en fait à l'autre. Mm-hmm. Il est assez bluffant, Tchongor, pour ça. Pas que la maîtrise du français et des langues étrangères, mais la capacité de se mettre au niveau de son interlocuteur et de créer, créer une bonne ambiance, voilà, créer de la confiance.
Fabrice, c'est le moment pour vous de vous adresser à lui. Il vous écoute, le micro est à vous.
Bon, Tchongor, il faut qu'on parle de choses sérieuses là, maintenant, puisqu'on se connaît, ça va faire 10 ans, ça fait plusieurs années que tu es en France. On a passé très beaux moments ensemble, notamment on a partagé la bonne chère, nourriture, vin, tout ça, je crois que tu connais. Bon, est-ce que tu peux l'avouer devant tout le monde aujourd'hui ? Tu t'es acclimaté en France, je sais que tu aimes les vins hongrois, mais est-ce que tu es prêt à reconnaître la supériorité désormais des vins français devant les auditeurs ?
Alors Tchongor, on vous laisse répondre. Êtes-vous prêt devant les auditeurs de Radio Imo ?
Quelle question, hein. J'aime bien Fabrice, peut-être pas pour cette raison, mais non, c'est justement pour cette raison-là. Je suis prêt à admettre, surtout que moi, je bois pas trop d'alcool, en fait, et de moins en moins. J'aimerais plus savourer la qualité de le vin français, mais le problème, que je ne peux pas digérer vraiment le vin, donc on a des vins à la maison depuis très longtemps, et maintenant, avec le Covid, je me même pas inviter et avoir des invités pour le finir. Donc j'attends Fabrice que tu viennes et tu consommes nos vins.
Voilà pour les choses sérieuses, les sujets sérieux entre amis. Justement, vous parlez de recevoir des amis. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas ? Qu'est-ce que vous aimez faire ?
En fait, c'est le voyage, ce qui me fascine. Bien entendu, plutôt en famille, de faire découvrir des choses à mes enfants. Avant le Covid...
Combien d'enfants ? Vous avez évoqué une fille ?
Une fille et un garçon.
Une fille et un garçon. Quel âge ils ont ?
9 et 7. Et en fait, tous les week-ends, nous avons fait un découvert dans la région, ici en France. Nous sommes allés même au nord ou en ouest, au bord de la mer. Donc, en fait, toujours d'avoir un programme, de découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui me passionne. Pas tellement une activité précise. Maintenant, j'essaye de courir parce qu'avec l'âge et avec le travail, mon état physique n'est pas le meilleur. Et je suis fier d'être au niveau de mon fils qui a 7 ans. Au moins, je suis capable de tenir son rythme. Mais en tout cas, non, je n'ai pas d'autres passions plus que vraiment découvrir les choses, apprendre et voyager.
Le prochain voyage, c'est quoi ? Une fois qu'on pourra...
Moi, j'aurais voulu aller... En fait, c'est la Chine qui m'a vraiment bluffé à un moment donné. Je voudrais y retourner et faire... C'était d'ailleurs l'année dernière, Shanghai et le Japon. Sauf qu'à cause de Covid, c'était annulé. Mais j'aime autant d'aller loin que de rester dans le coin. C'est pas tellement le lieu de nouveau, c'est plus de découvrir des choses qui sont différentes. J'adore la nature, c'est pourquoi l'Alaska on était, mais en France il y a beaucoup de nature aussi. Mais j'ai sur une liste, toute une liste sur tous les endroits que je voudrais visiter avant 60 ans.
Qu'est-ce que le magazine tu lis, là, il est en bonne vous avez fait la moitié, un quart. Il reste quelques pages ?
Il reste beaucoup de pages, oui.
Vous habitez Paris, Tchongor ?
Ici, les Moulineaux.
Oui, donc c'est quand même très urbain comme cadre de vie.
Oui, mais nous habitons sur l'île Saint-Germain, à côté du parc île Saint-Germain. Donc c'est vraiment très agréable. De notre balcon, on voit le parc. On ne se sent pas réellement à Paris, alors que nous sommes à 10 minutes de Tour Eiffel. Je peux confirmer parce que mon épouse le fait en courant tous les jours. Je l'admire pour ça. Mais c'est un bon compromis pour être dans la nature presque, à côté du parc, et à un lieu culturellement imbattable comme Paris.
On a parlé de votre épouse, de vos enfants. Vous avez laissé de la famille en Hongrie également ?
Oui, en fait, mes parents sont restés en Hongrie. Ils sont encore actifs, ils travaillent. Donc, ça démontre à quel point je suis jeune.
S'il y avait besoin d'encore le démontrer, en plus de la course avec votre fils de 7 ans.
Oui, donc, et c'était ma mère qui était toujours très exigeante vers elle-même et vers moi. Donc, c'est elle qui m'a mis sur les rails de français. J'ai étudié le mathématiques appliquées. J'adore le mathématiques. Et mon père, lui, il a plutôt... comment il s'appelle ? Il aime prendre plaisir de vivre. Il aime plutôt... voilà, il m'a donné... Comment dire ? Il a beaucoup de phrases. Il parle pas tellement, mais quand il parle, on le retient. Quelques phrases comme par exemple qui n'apprécie pas le petit, ne mérite pas le grand. Donc voilà.
Merci Tchongor, on s'approche gentiment de la fin de cette émission, il nous reste quelques minutes ensemble. Avant qu'on écoute le dernier titre musical de votre playlist, quels sont vos projets professionnellement et personnellement? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, les années qui viennent?
Déjà de bon vent, hein, comme on dit en France, même si je ne suis pas un voilier. Moi, quand il n'y avait pas des enfants, et c'était un moment de ma vie très déterminant, j'ai assisté à la naissance de tous mes deux enfants. Et d'abord ma fille, parce qu'elle est née plus tôt. J'ai dû couper le cordon et c'était moi qui l'ai tenue dans mes bras. Bien entendu, je pense qu'il y a peu de personnes qui ne craquent pas dans ces moments-là, mais on sent vraiment la responsabilité que, en fait, on ne vit que pour nous, mais il y a notre santé est une responsabilité pour nos enfants. Et donc maintenant, j'essaie de quand même relativiser. Donc bien entendu, professionnellement, j'ai toujours des ambitions et je veux changer le monde pour un mieux et je vais faire tout pour y arriver. Mais depuis la naissance de mes enfants, vraiment, ce qui compte, c'est de s'assurer que les enfants sont et la famille va bien.
Merci Tchongor Tchoukas pour ce témoignage. On était ravis de vous recevoir, d'apprendre à vous connaître ce matin. Et d'ailleurs, vous reviendrez sur Radio Imo pour parler tertiaire, pour parler property management. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous, Fabrice, de m'avoir accompagné ce matin.
Eh bien, merci, Johanna, voilà, pour ce réveil et avec notre invité qu'on a, voilà, un vrai gentil personnage, hein, je dis ça dans le bon sens du terme, francophone et francophile, et qui aime la France et les Français. Ça fait du bien à entendre.
C'était un plaisir. Et si vous nous avez rejoints en cours d'émission, vous pourrez évidemment
merci
retrouver
pour
dans
l'invitation
quelques minutes.
Et d'avoir pu être avec
Mais c'était un plaisir. Dans quelques minutes, le podcast à venir sur Radio Imo ce matin. La semaine copro de Gilles Frémont à 11h30. Et puis vos programmes du week-end, comme d'habitude. La semaine prochaine, on aura quelques rendez-vous un peu particuliers, notamment jeudi matin, une émission spéciale avec Epamar n'est pas France à suivre. On parlera d'ailleurs un peu immobilier tertiaire. La semaine prochaine, dans le Mac de l'Imo, nous serons avec Pierre Autus, le président de l'UNPI, qui sera avec nous, que vous connaissez déjà pour son émission 25 millions de propriétaires. On verra qui il est et comment il voit les choses et comment il travaille. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée à l'écoute de Radio Imo. On se quitte sur le groupe Europe de Final Countdown. Très bonne journée.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.